Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni. Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Kidal de retour dans le giron du Mali. C'est le thème de notre émission de débat, le Grand Dialogue de ce soir. Après 11 années d'absence, l'armée malienne est arrivée à Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Des Maliens à Bamako, Kati, Koulikoro, Bougouni ou encore à Gao sont sortis pour manifester leur joie. Ils ont salué ce acte des FAMA qu'ils qualifient de bravoure. Ils demandent également aux autorités de maintenir le cap. Que vaut cette reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne? Faut-il craindre des représailles des groupes séparatistes? On en parle avec quatre invités. Bagabini Keita, enseignant-chercheur. Brima Mamadou Kone, également enseignant-chercheur. Ngolo Diarra, également enseignant-chercheur. Le quatrième invité n'est pas encore arrivé. Nous l'espérons l'avoir d'ici la fin de cette émission. Il s'agit de Cheikh Mor Doumbia, politologue, auditeur, auditrice. Et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Chers invités, avant de rentrer dans le vif de cette émission, je rappelle que cette émission s'inscrit dans le cadre du projet de prévention de la violence et médias de la Fondation Hirondelle, avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. 25 journalistes de 7 pays participent, dont 2 de Studio Tamani. Alors, comme je le disais à l'entame de mes propos, 11 ans après, revoilà l'armée malienne à Kidal. Comment donc vous avez accueilli cette annonce? Une question tour de table. Je commencerai par Ngolo Diarra.
Ok. D'abord, merci pour l'invitation, la petite fille de Sonia Libère. D'abord, une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie. J'ai remercié les hiérarchies militaires et les hommes de terrain et ensuite les partenaires qui sont engagés à leur côté. Et c'est un sentiment de joie, de satisfaction en tant que citoyen de cette terre bénie qu'est le Mali. En tout cas, ce qui s'est passé à Kidal et ce qui va se passer également doit permettre à la communauté internationale de faire progresser le droit international. Alors, pour la gestion de cette crise, il y a eu plusieurs tentatives. L'organisation sous-régionale et l'organisation régionale s'étaient engagées dans le cadre de la MISMA sans succès. Alors, l'organisation à vocation universelle s'était engagée sans succès. Avec la coopération bilatérale Mali-Russie, aujourd'hui, le Mali est en train de recouvrir sa souveraineté, alors que la souveraineté constitue vraiment parmi des critères de reconnaissance de l'État en droit international. Donc, c'est un sentiment de satisfaction et voilà, inviter les autorités à continuer à se battre, inviter la population à continuer à se battre pour la défense de l'intégrité territoriale de ce pays.
Bagabini Keita, vous partagez également ce sentiment de satisfaction et de joie?
Bon, d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, remercier l'ensemble de vos collaborateurs, mais également les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, mais aussi un mot de gentillesse à l'endroit de mes frères et amis qui sont avec moi, collègues également, qui sont avec moi sur le plateau. D'abord, moi, je voudrais, par rapport aux 11 ans, le Kidal de retour dans le giron du Mali 11 ans après. Mais moi, je pense que c'est plus que 11 ans, parce que cette affaire a commencé depuis les années 89 avec, je crois, l'accord de Tamana Rachet. Depuis cette époque, Kidal a commencé, le Mali a commencé à perdre progressivement Kidal. Et à partir des années 92 jusqu'à la flamme de la paix, si ma mémoire est bonne, en 94, sous le leadership de Alpha Omar Konaré, donc le Mali a, depuis cette époque-là, largement perdu Kidal. Et donc, c'est plus que 11 ans, donc ça fait vraiment une trentaine d'années, sinon plus, que nous avons perdu Kidal, et Kidal est de retour dans le giron, c'est un bon titre. Est-ce que je suis heureux, joyeux par rapport à ça? Oui, je suis joyeux comme tout bon Malien, bien entendu, mais au-delà de la joie, je pense que c'est aussi également une invitation pour moi, cette victoire de l'armée, ça m'invite à réfléchir Et ça me suggère donc des réflexions. Et entre autres, je me dis que l'armée malienne est à saluer pour la simple raison, les manifestations de joie que vous voyez dans la rue, ce n'est pas que des simples manifestations de joie. Et je crois que c'est l'expression aussi d'une dignité retrouvée, que les gens sont en train de... d'une dignité retrouvée. Mais également, je pense que ça voudrait dire ces manifestations, l'expression aussi de la soif de la souveraineté. Donc on voit ça chez les Maliens, que les Maliens ont soif donc de souveraineté, d'indépendance. Donc ce qui veut dire que depuis un certain moment, bon, ou sinon même depuis la période des indépendances, on nous a chanté les indépendances, mais qu'en réalité, les indépendances étaient restées quelque chose sur le papier, et de fait, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, avec l'échec, évidemment, des différentes interventions internationales, notamment du côté de la France, à savoir la force Serval qui a eu un début de succès, mais après je crois qu'il y a eu la force Barkhane qui a échoué, Takuba qui a échoué, et puis on est passé je crois à la MISMA qui est finalement passé le flambeau à la MINUSMA et donc qui a aussi échoué lamentablement, et puis au-delà du fait simplement que ces gens-là ont échoué, je pense que c'est l'occasion aussi de le dire. Je rejoins Golo dans ce sens que peut-être qu'il faudrait à partir de là aussi que les relations internationales soient quelque part aussi revues. Et puisque nous avons compris dans ce jeu, évidemment dans cette reconquête de notre territoire, et notamment le cas précis de Kidal, nous avons compris qu'il y avait beaucoup de stratagèmes, beaucoup de complots, qui étaient effectivement, je crois que d'autres langues, voix autorisées l'avaient déjà dit, quand vous prenez feu le président Amadou Toumani Touré à l'époque, il a dit que le Mali fait face à un complot et que le Mali seul ne peut pas. Comment dirais-je, s'en sortir, s'est tiré du bourbier. Et je crois que l'histoire lui a donné raison. C'est aussi l'occasion de saluer non seulement, comment dirais-je, les partenaires africains, notamment les deux pays frères, à savoir le Niger et le Burkina Faso, mais il faut aussi saluer nos partenaires russes. Parce que je pense que sans l'aide à la fois en termes de renseignements, mais également sur le terrain des opérations, et également en termes d'équipement, donc sans cet apport de la Russie, ce n'est pas évident aujourd'hui qu'on puisse fêter et qu'on puisse fêter.
Alors, Bagabini, merci pour vos mots d'introduction. Les partenaires, ceux qui nous ont aidés, nous allons en venir au cours de cette émission. Le temps de donner la parole à Brima Mamadou Koné. Satisfaction, sentiment de joie pour N'Golo, pour Bagabini Keïta, c'est pas 11 ans, c'est, il faut remonter à l'accord de Tamaracet pour savoir que Kidal avait progressivement commencé à quitter le Mali. Comment avez-vous accueilli alors l'arrivée de l'armée, le contrôle de la ville de Kidal par l'armée malienne?
Et bonsoir madame, permettez-moi tout d'abord de m'incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires qui sont tombés sous les balles des forces obscurantistes qui avaient pris d'assaut le nord et le centre du pays. Mais ce qui m'anime aujourd'hui, c'est une satisfaction et aussi un esprit de nationaliste ou de patriotisme. Je le dis pour deux aspects extrêmement importants. Quand on prend l'accord qui a été signé entre l'État du Mali et les groupes armés, vous savez, quand vous prenez l'histoire politique du monde, il n'y a jamais eu un accord de paix qui a été appliqué dans son intégralité à 100%. Le plus souvent, l'objectif d'un accord de paix, c'est de permettre à l'État de mieux se préparer et pour faire face, n'est-ce pas, soit à des groupes armés, à une rébellion ou à des forces obscurantistes comme les terroristes, de mieux se préparer pour prendre le contrôle de son territoire ou de son intégrité territoriale. Et nous sommes face à cette situation aujourd'hui. C'est ce travail qui a été fait par les autorités de la transition. Et il faut saluer les efforts qui ont été consentis pour la libération de Kidal. qui constituaient en réalité les nids des narco-djihadistes, des narcotrafiquants, des acteurs du crime organisé et des acteurs de la criminalité transnationale. Parce que l'État n'avait plus aucun contrôle sur la ville de Kidal. Donc, c'est des gens qui opéraient comme ils voulaient parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et l'autre aspect extrêmement important, ça engendrait aussi une perte pour l'État en termes de ressources fiscales. Vous savez, dans les zones de conflit, on a assisté progressivement ces dernières années à une régression, n'est-ce pas, de la pression fiscale, parce que l'État n'arrivait plus à recouvrer les taxes et les impôts au niveau de beaucoup de parties du nord et du centre du pays, ce qui constituait un manque à gagner. Et vous savez, lors de la conférence sur la paix à Dakar, l'ancien Premier ministre disait que les 32% des ressources fiscales du Mali sont allouées à l'effort de guerre. Donc si on arrive à récupérer Kidal aujourd'hui, à nous positionner et à sécuriser le territoire national, ces ressources fiscales qui étaient allouées à l'effort de guerre vont permettre au Mali de faire des investissements publics, de faire des infrastructures physiques et des infrastructures routières, ce qui nous permettra de créer des emplois, de créer de la richesse et aussi de créer les meilleures conditions de redistribution de cette richesse aux différentes échelles d'économie pour lutter contre la pauvreté endémique ou aussi contre les inégalités. Le deuxième aspect, quand vous prenez l'histoire politique du monde, je le dis sous le contrôle de mes co-débatteurs, les forces internationales n'ont jamais réussi à ramener la paix dans un pays. Quand vous prenez l'histoire politique du monde, et on l'a toujours dit que cette guerre, elle va être menée et gagnée, n'est-ce pas, par nos forces armées et de sécurité. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et moi, en tant que citoyen du Mali, je me réjouis aujourd'hui de cette avancée significative. Mais mieux encore, nous sommes à Kidal, mais il faudrait que nous travaillions pour, n'est-ce pas, pérenniser notre présence à Kidal. Et dans les jours à venir, il faut que l'armée essaye de géolocaliser, de briser les chaînes de commandement des groupes terroristes et des groupes armés, de les mettre en débandade, les détruire carrément, et pour qu'on puisse s'assurer aujourd'hui que le territoire national est sécurisé. Ça va prendre du temps, ça peut prendre 3 à 6 mois ou bien une année. Et si cela se fait, ça va permettre la mobilité des personnes et de leurs biens sur les différents territoires, sur le territoire national. Et ça va permettre aussi, par exemple, aux populations du centre qui ne pouvaient plus amener des activités agro-silvopastorales. Et quand vous prenez le pays, les 110 ou 115% de la population vit, n'est-ce pas, des activités agro-silvopastorales. Donc cette crise a contribué à l'appauvrissement, n'est-ce pas, des communautés rurales et a créé aussi des inégalités parce que dans la plupart de ces zones, les populations n'avaient plus accès, n'est-ce pas, bien évidemment, aux services sociaux de base, l'eau, l'hydraulique, la santé, l'éducation. Donc il faudrait que nous travaillions aujourd'hui à remettre en place ces services sociaux de base en commençant d'abord par le retour de l'administration publique dans ces différentes localités, le retour des institutions financières dans ces localités et aussi travailler à développer des projets structurants et des projets structurants pour permettre aux femmes et surtout aux jeunes qui sont les candidats pour les groupes armés et les groupes terroristes d'avoir des activités génératrices de revenus parce que la plupart de ces candidats, c'est des gens qui n'ont pas d'espoir pour des lendemains meilleurs. C'est ce qui fait qu'ils sont candidats pour ces groupes terroristes. Mais on va en revenir dans le fond du débat.
Effectivement, nous allons en revenir pour vos mots d'introduction. On pouvait comprendre esprit de patriotisme, joie, satisfaction. Alors, N'Golo Diarra, que vaut donc la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne aujourd'hui?
C'était vital. C'était vraiment vital. Vous savez, le conflit armé malien, ça a été un conflit qui a été vraiment très mal géré. C'est pourquoi on est arrivé à ce niveau. Pour être très technique, d'abord, nous avons des troubles et tensions internes. C'est commencé comme ça. Et ensuite, c'est devenu un conflit armé non international. Alors, depuis un certain temps, des rébellions, ceci, demandaient à développer le Nord. Et puis, ça va prendre une dimension de conflit armé international. Le conflit s'internationalise par deux manières, soit l'intervention d'un État tiers, soit l'intervention des Nations Unies. Alors, le conflit a pris une dimension internationale et vous avez vu, et les autorités actuelles, il fallait travailler sur tout ça, si vous me permettez le terme, déinternationaliser le conflit armé malien en demandant le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Cela, ça a un coût. Alors, la présence de l'armée malienne à Kidal, on sait que ce n'est pas facile, c'est difficile. Et les pays, nous avons 1 241 000 km², c'est très compliqué. Une manière, c'est de prendre la ville, une manière aussi, c'est de contrôler. Alors, donc, c'est effectivement d'amener des bases de développement économique. Alors, les efforts sont en cours. Il y a eu la militarisation des policiers et les mutations sont en cours. Le système SNJ s'est arrivé, les recrutements sont en cours pour pouvoir pallier à ces situations, mais ce n'est pas du tout difficile. Alors, pour répondre à votre question, la prise de Kidal est vitale. Alors, pourquoi c'est vital? Vous savez, les groupes armés locaux sont partis du droit de peuple à l'autodétermination pour demander l'autodétermination de l'État de l'Azawad qui couvre 800 000 km² avec Gao comme capitale. Alors, tout est parti de là. La base juridique, c'est le droit de peuple à l'autodétermination. Que dit ce droit? Ce droit dit, si vous êtes une communauté et que vous êtes marginalisé, alors donc il va de soi que vous arrivez voilà, à vous défendre et pour demander effectivement votre souveraineté. Mais ce droit a été utilisé par les groupes armés séparatistes, le Mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unicité de l'Azawad, le Mouvement populaire pour le salut de l'Azawad, le Mouvement pour le salut de l'Azawad, c'est trop devenu CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, aujourd'hui CSP. Et vous savez, la gestion de la chose, celui qui a même créé ce groupe qui attaquait l'armée malienne, il est membre du CNT. Il est membre du CNT, il est le créateur du mouvement pour le salut de l'Azawad, il est concepteur du CSP. Alors, donc, c'est des pratiques très négligées par l'État et ça se retourne contre nous. Voilà. Sinon, évidemment, dans ces cas pareils, une fois qu'on prend des armes contre l'État, en ce moment, il devrait avoir une réaction, que ce soit une réaction juridique ou bien que ce soit une réaction militaire pour empêcher cela. Alors, ce droit de peuple à l'autodétermination ne correspond pas à cette réalité. C'était donné à des États qui demandaient leur indépendance vis-à-vis de leurs colonisateurs. Et si ces droits ont été utilisés par des éléments armés et que ces éléments armés ont trouvé des puissances étrangères à leur côté pour mettre le pays dans ces situations, le pays devrait bien diagnostiquer la situation et ça allait nous éviter d'utiliser des armements très lourds. Il faut cibler effectivement les auteurs, ceux qui ont créé cela. Alors, nous avons parlé, on était au four et au moulin, nous avons fait des articles scientifiques, nous avons rencontré les autorités, nous avons rencontré Amadou Touré, il nous a compris lorsqu'il était au crépuscule de ce régime, il a mis un mandat d'arrêt, des mandats d'arrêt internationaux contre effectivement les auteurs. Ces auteurs, le président Keïta, paix à son âme, a utilisé ces acteurs aussi qui ont fait cela et en les intégrant dans l'armée, en les intégrant également dans les appareils de décision et même jusqu'à présent, ils sont présents dans ces éléments. Donc il faut beaucoup travailler sur ça. L'idéologie autour du droit de peuple à l'autodétermination, l'idéologie indépendantiste, il faut combattre ça aussi. C'est intellectuel. L'armée fait son boulot et c'est intellectuel aussi de démasquer évidemment ce genre d'idéologie pour éviter que les choses n'arrivent encore.
Alors, je le disais à l'entame de mes propos, juste après la confirmation de cette nouvelle par les autorités, la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne, des Maliens sont sortis pour exprimer leur joie. On les écoute dans ce Vox Pop.
Je me réjouis de cette victoire sur cette partie de notre territoire qui était aux mains de ces groupes années, il y a plusieurs années. Vraiment aujourd'hui, je suis honoré, je suis fier d'être malien.
Je suis venu en tant qu'un malien, fier d'être malien.
Nous sommes toutes joyeux, toute la population malienne, et nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est un grand jour, aujourd'hui, c'est un grand événement. Aujourd'hui, c'est un jour qui sera inscrit dans les annales.
11 ans. Ça a coulé. Et aujourd'hui, on voit que ces militaires ont couvert tous les territoires du Mali. C'est un sentiment d'espoir qui renaît aujourd'hui.
Alors, vous venez d'écouter ce Vox Pop à travers le pays, des scènes de liesse qui se sont déroulées hier après l'annonce de la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne. Que pouvez-vous dire de ces scènes de liesse à travers le pays, Brima Mamadou Koné?
Non, les sentiments aujourd'hui de joie que le peuple manifeste aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour exprimer aussi, au-delà de la récupération de Kidal, c'est pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition qui ont réussi à briser n'est-ce pas, ce mythe qui était Kidal. Je ne dirais pas que Kidal est revenu dans les jurons maliens, parce que pour moi, c'est pas, Kidal n'avait pas pris son indépendance et qu'il s'était détaché du Mali. Il y a des groupuscules qui ont pris des armes contre l'État, l'autorité de l'État, qui ont occasionné des morts, mais Kidal reste toujours malien.
Mais pendant longtemps, il n'y avait ni l'armée malienne, il n'y avait que la MINUSMA, il n'y avait que Barkhane durant un moment, mais ils étaient vraiment réfractaires à la présence de l'armée malienne
dans la
ville.
Oui, ils étaient réfractaires à la présence de l'armée malienne ou de l'État, l'autorité de l'État, je pèse les mots, mais j'ai dit une fois de plus, Kidal restait Kidal malien.
Il est clair que Kidal, en fait, Kidal restait malien, mais au même moment, Kidal refusait l'État malien. Comment comprendre ça?
Mais vous savez pourquoi vous le dites? On avait la présence d'un gouverneur qui est le représentant légitime de l'État à Kidal. Et il est clair que l'État n'avait pas de contrôle sur Kidal et ses alentours. Mais je vais peser les mots. Bon, de toute façon, revenons à la question fondamentale. Aujourd'hui, ces manifestations, en réalité, c'est pour exprimer leur solidarité, leur soutien aux autorités de la transition. Parce que vous savez, depuis que la crise a commencé, on a encore en souvenir la débâcle de l'armée ou la dorure de l'armée à Kidal après le départ de l'ancien Premier ministre à Kidal. Il y avait cette frustration au niveau des masses populaires, au niveau des communautés à la base. Et c'est cette joie aujourd'hui que le peuple est en train d'exprimer. Et je peux vous dire que les autorités de la transition, s'ils continuent sur cet élan, sur cette lancée, sans risque de me tromper, ils pourraient toujours avoir le soutien, n'est-ce pas, l'engagement, l'accompagnement, n'est-ce pas, du peuple malien qui aspire aujourd'hui à l'intégrité territoriale du pays afin que les gens puissent mener leurs activités afin de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens dans l'espace, ce qui n'était pas le cas. On peut se réjouir aujourd'hui que dans les jours à venir, et je peux quitter ici avec mon véhicule pour aller à Gao, pour aller à Mopti, sans crainte d'être attaqué par les groupes terroristes.
Nous l'espérons.
Ce n'était pas possible depuis 2012, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, l'avancée des forces armées maliennes, des forces armées et de sécurité, ça donne l'espoir que dans les jours à venir, on va travailler à mettre en déroute l'ensemble des groupes terroristes qui opèrent sur le territoire malien. Mais il est aussi important aujourd'hui que l'État du Mali travaille dans le cadre des différentes coalitions avec les pays frontaliers, notamment l'Algérie, notamment la Mauritanie, notamment le Niger et puis le Burkina Faso. Il faut commencer à faire des opérations de coalition pour faire le ratissage le long des frontières, surtout au niveau des différentes frontières. Il faudrait que nos différentes armées puissent travailler aujourd'hui en termes de mutualisation des efforts militaires et aussi en termes de partage du renseignement militaire. Surtout que dans le cas de l'accord qui vient de signer entre les trois pays, nos États ont accepté d'abandonner une partie de leur souveraineté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire quoi? Si l'armée du Burkina Faso ou du Niger pourchasse les groupes terroristes aujourd'hui, s'ils pénètrent sur le territoire malien, ils peuvent les poursuivre, briser leur chaîne de commandement et les détruire, les neutraliser, ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, l'armée malienne qui pourchasse des groupes terroristes ou des groupes armés qui pénètrent dans le territoire du Faso ou du Niger, ils peuvent continuer les opérations de ratissage. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme.
Alors, M. Kone, excusez-moi, je vous interromps. Nous allons venir au volet sécurité. Nous allons continuer avec ces scènes de liesse parce que tout à l'heure, dans le Vox Post qui est passé, certains demandaient aux autorités de maintenir le cap. Maintenir le cap. Quel est donc le sens derrière ce message, selon vous, Barabini Keïta?
Bon, écoutez, permettez-moi quand même de dire quelques mots sur ce que vaut la reprise de Kidal. Moi, je vois trois valeurs fondamentales.
Rapidement.
Mm-hmm. Premièrement, il y a une valeur militaire. Et je pense que cette valeur militaire se définit à partir de ce que j'appelle la consécration de la montée en puissance de l'armée. Donc ce n'est plus un secret pour personne. Je dis bien d'un point de vue symbolique. Donc on peut dire qu'il n'y a aucun doute que l'armée malienne est montée en puissance. Donc on ne peut plus considérer le Mali militairement comme un petit pays. Mais donc il s'est inscrit à partir donc de cette reconquête de la ville de Kidal, qui était détenu par les groupes armés depuis des années, donc depuis plus de 10 ans. Donc on peut dire que le Mali est un grand pays militaire. Maintenant, mais je pense que cette puissance militaire également, quelque part, est à donner aussi au peuple malien. Parce qu'une armée sans le soutien de son peuple ne vaut rien. Et donc c'est grâce également au soutien du peuple malien que cette victoire-là a été enregistrée. Maintenant, la deuxième valeur, je pense que je ne veux pas trop insister là-dessus, il y a M. Koné qui en a parlé, à savoir la valeur socio-économique. C'est-à-dire qu'on espère que dans quelques semaines, dans quelques mois, ou en tout cas après une année, donc on pourrait voir les premières retombées en fait de cette victoire sur Kidal. Pas sur Kidal, sur les groupes armés, je veux dire. Kidal fait partie du Mali. Et donc, les retombées socio-économiques, à savoir la réinstallation donc des structures de l'administration, de santé, les structures sociaux de base, si vous voulez. Et donc, évidemment, comme il a dit également, à un moment donné, donc même le Mali a perdu effectivement le contrôle de la fiscalité de cette partie. Donc, je pense que les impôts et autres que l'État malien devait récupérer revenaient directement aux groupes armés. Donc, à partir donc de la reprise de Kidal, donc, je ne veux pas m'attarder sur ça. Maintenant, la dernière chose, c'est une valeur politique, la reprise de Kidal. La reprise de Kidal a une signification politique extrêmement importante. La signification politique, elle est double. Elle est à la fois nationale, et donc ça montre l'échec de la classe politique. La classe politique a échoué, et c'est parce qu'elle a échoué qu'on est arrivé là. Et donc, ceux qui ont pris le pouvoir à partir de 2020 ou 2021, ça, évidemment, légitime également leur pouvoir. Donc, ceux qui disaient qu'il ne fallait pas donc ce coup d'État, je pense que l'histoire leur donne tort d'avoir dit ça et donc donne raison à ceux qui, même si effectivement d'un point de vue principiel, on pourrait dire qu'il ne faut pas saluer un coup d'État, que c'est antidémocratique, etc., etc. La démocratie, on peut en parler, mais c'est peut-être que vous allez nous inviter
Ça fera l'objet d'une autre émission.
Du point de vue international également, je disais, d'un point de vue national, donc l'échec de la classe politique et la légitimation, évidemment, du projet politique qui a été porté par le colonel Assimi Goïta et ses collaborateurs, à savoir le premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, etc. Et donc, depuis quelques années, donc ça légitime leur projet politique. Alors, du point de vue international, donc ça montre la fourberie également de certaines puissances, évidemment, qui ont plongé notre pays dans cette situation. Et c'est pour cette raison que je m'en vais à dire à M. Koné, si effectivement je suis d'accord avec vous, votre constat qui consiste à dire que les interventions des puissances étrangères n'ont jamais mis fin à une guerre dans un pays, je suis tout à fait d'accord avec vous, le constat est pertinent. Mais vous savez pourquoi ça n'a jamais mis... Parce que les interventions des puissances militaires n'ont jamais été sincères.
Alors, M. Keïta, nous allons revenir à notre question. Okay. Comment faire aujourd'hui pour maintenir le cap? C'est le message lancé par certains Maliens juste après l'annonce de la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne.
Maintenant, comment faire en sorte que...
Oui, le message derrière, maintenir le cap, pour que les autorités maintiennent
oui,
le cap.
Oui, maintenir le cap, c'est que ça signifie. Je pense qu'à la fois, les gens sont contents que nous avons repris Kidal, mais en même temps, les gens sont inquiets en ce qui concerne le retour de l'insécurité dans cette région. Donc, je crois que c'est ça, c'est ce message qui est... Donc, il faut maintenir le cap. Nous avons pris Kidal. Et donc, travaillons de manière que Kidal ne nous échappe plus. Alors, pour que Kidal ne nous échappe plus, je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux pistes de réflexion possibles. La première, elle est d'ordre militaire. Bon, parce que les gens vont dire, évidemment, je pense que Koné a eu à le dire, que ça peut prendre des mois ou peut-être même plus une année. Lui parlait de 6 mois. Moi, je dis, ça peut même prendre une année les opérations de sécurisation. Et donc, ça demande évidemment une collaboration, effectivement, il l'a dit, avec les autres pays frontaliers, l'Algérie, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, et peut-être même la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, parce que nous partageons aussi une frontière avec la Côte d'Ivoire. Et donc, la question encore, excusez-moi, là.
Donc, je vais vous reposer la question. Certains Maliens, lors de leur sortie pour manifester leur joie, ont demandé aux autorités de maintenir le cap. Selon vous, quel est le message derrière?
Oui, donc je disais qu'effectivement, le premier message, il est d'ordre militaire. Et le message militaire, je dis bien qu'il faut poursuivre les opérations de sécurisation, effectivement, de la région de Kidal et au-delà de la région de Kidal, de l'ensemble du territoire. Le deuxième message, évidemment, il est d'ordre politique. Alors, il faut que nous gardions l'unité du pays. C'est-à-dire qu'il faut que les Maliens continuent à se donner la main. Parce que je crois que derrière chaque, en bas de chaque communiqué de l'armée, unis nous vaincrons. Ça veut dire quoi ? Sans l'unité du peuple malien, il serait difficile, soit impossible, que l'armée puisse effectivement faire le travail qu'elle est en train de faire. Je veux dire dans des mots beaucoup plus simples. Imaginez s'il y a des troubles à Bamako ou dans telle région. Au moment même où l'armée était en train de se battre pour reconquérir Kidal. Donc vous voyez, ça démoralise les troupes. Et donc c'est pourquoi l'unité nationale est une condition indispensable pour moi.
Merci Bagabini, le temps de donner la parole à vos co-débatteurs pour y réagir également. Monsieur Kone, est-ce que cette prise de Kidal va contribuer à mettre fin à l'insécurité?
La crise de Kidal ne met pas fin aujourd'hui à l'insécurité au Mali.
Mais va-t-elle y contribuer?
Mais elle contribue aujourd'hui à mettre fin à l'insécurité si nous maintenons les caps. Je vais aller avec quatre concepts.
Allez-y.
Premièrement, il faut identifier l'ensemble des groupes dans leur retranchement, jusqu'à dans leur dernier retranchement. Ça, c'est la première des choses à faire. Deux, quand on les identifie dans leur retranchement, il faut briser la chaîne de commandement. Et troisièmement, il faut les mettre en dépendance. Si on les met dans cette posture, on les affaiblit. Et troisième chose, il faut détruire tous ces groupes.
Quatrième chose, alors.
Détruire, ça veut dire qu'il faut neutraliser. Et l'autre chose, il faut faire le ratissage le long des frontières au sein de la coalition. Si on fait ce travail, on va réduire l'insécurité considérablement et c'est à ce prix que nous allons nous maintenir à Kidal. Vous savez, militairement et stratégiquement, la prise d'une localité, elle est extrêmement importante. Quand on est dans une localité, militairement, il est extrêmement difficile de pouvoir mettre aujourd'hui l'armée malienne en déroute. Surtout que nous avons les opérations militaires sur les terres d'opération se font avec des appuis aériens et des appuis terrestres. Ça permet également une conjugaison des efforts pour toujours mettre en déroute les groupes armés terroristes. Mais mieux encore, il faudrait commencer, comme M. Keta le disait, j'ai vu un communiqué de la police nationale où le directeur demande à tous les policiers qui ont été mutés à Kidal de se rendre à l'école de police ou à la direction pour préparer leur départ sur Kidal. On a pris la localité, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait la présence de la police. Si l'armée fait la prise d'une localité, après le reste du processus de sécurisation revient à la garde nationale et à la police nationale. Mais deuxièmement, il faut que l'État arrive, le chef d'état-major, de concert avec le directeur général de la police, arrive à mettre aujourd'hui ce qu'on appelle des forces de mobilité. Des forces de mobilité qui vont opérer dans la zone autant que l'armée, qui va être en groupe. Mais il faut mettre aujourd'hui des forces mobiles pour la sécurisation, n'est-ce pas, des alentours de la ville de Kidal. En cas de défaillance de cette chaîne de commandement des forces mobiles, l'armée peut intervenir sur la base des appuis aéroterrestres pour mettre en déroute l'ennemi. Mais il faut se réjouir aujourd'hui que Kidal, c'est Kidal qui constitue en réalité le problème. Et le président Keta, Kedjila Ke dans son paradis, l'a dit en 2007. Il dit, on nous empêche de rentrer à Kidal. Et tant que notre présence n'est pas effective à Kidal, on ne peut pas lutter contre l'insécurité, on ne peut pas lutter contre
le terrorisme au Mali.
Et nous sommes aujourd'hui à Kidal. C'est une joie qui est immense. Il faut fêter. Et je pense que dans 6 mois, dans 1 année, je pense que ma sœur Maïga pourrait prendre son véhicule pour aller à Gao, à Tombouctou.
Je l'espère surtout. Crainte. Je vous rappelle qu'il nous reste 10 petites minutes pour clore cette émission, et cette production s'inscrit dans le cadre du projet Prévention de la violence et médias de la Fondation Hirondelle, avec le soutien du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Et à l'annonce également, les régions du nord du pays également se sont prononcées sur la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne. Pour la présidente de la CAFO de Gao, Lala Maïga, il faut une mobilisation et des soutiens autour des forces armées maliennes et de sécurité pour la suite de leur mission. Nous l'écoutons.
Ce que je peux vous dire, c'est que la coordination des associations religieuses féminines de Gao CAFO salue la bravoure et le courage de nos voyantes femmes dans l'accomplissement de leur mission de défense du territoire. Et nous les encourageons de continuer toujours à agir avec professionnalisme. La CAFO félicite aussi la transition et son gouvernement. Et comme c'est fait à Kidal, nous demandons à la population de Kidal de faire confiance aux femmes qui ont encore une mission de sécurisation et de protection pour le retour effectif de l'État, des services sociaux de base et le retour des déplacés et des réfugiés. Donc l'appel que j'ai à lancer aux autorités, c'est d'encourager les forces de défense et de sécurité, de les encourager pour cette réussite, parce que c'est l'espoir. Les populations aussi doivent les soutenir et rester toujours en collaboration avec eux.
Alors, vous venez d'écouter Lala Maïga, présidente de la CAFO de Gao. Monsieur Ngolo Diarra, vous avez la parole après Kidal. Que faut-il aujourd'hui pour asseoir une sécurité dans les différentes régions du nord du pays, notamment à Menaka, Gao, Tombouctou, où des régions vivent sous blocus, où des groupes armés ou encore des groupes djihadistes donnent des ordres sur place également aujourd'hui?
D'accord, on va saluer madame depuis Kidal.
Depuis Gao.
Elle est à Gao, depuis Gao, et saluer effectivement les populations qui vivent au nord du pays. C'est des populations vraiment qui ont beaucoup résisté à l'oppression, comme le droit constitutionnel en constitution l'a dit. Alors donc, en ce moment, c'est difficile, car le Mali, c'est très difficile. Maïga, j'ai écrit 460 pages en thèse de doctorat sur le conflit armé au Sahel. J'ai écrit plusieurs articles dans ce sens avec plusieurs propositions. Le cas de Kidal, c'est très très difficile. La droite des Yougas, c'est pas facile. Le territoire, le terrain est très immense. J'ai connu Kidal en 2014, puis en 2018. En tout cas, on peut continuer à travailler. Et les auteurs de ces actes-là qui ont amené le conflit armé séparatiste dans ce pays, ces acteurs sont connus. Ils sont bien vivants. Beaucoup sont à Bamako ici. Alors, l'étranger ne peut pas faire ce projet séparatiste de l'État tant qu'on ne passe pas vraiment des éléments à l'interne. Donc, il faut vraiment chercher ces éléments. Il faut vraiment les chercher. Il doit vraiment rendre compte à l'État malien. C'est ce qui nous a amené dans cette situation. On les connaît mieux. Alors, donc, rien n'est caché dans ce sens. Donc, l'État doit sortir dans cette situation, souvent faire des exonérations à des individus qui prennent des armes contre l'État, ou bien ce qu'on a appelé dans le jargon de la diplomatie, la discrimination positive, essayer de dire c'est telle population et ceci. Vraiment, il faut sortir dans cette situation et essayer de travailler bien. Et puis, travailler beaucoup sur la politique nationale, mes amis ont eu à dire, mais aussi la politique internationale, nationale, régionale et sous-régionale, faire en sorte que le Mali puisse retourner de façon effective dans le concert des nations. Et je comprends la réaction également des populations. La polémologie, c'est la science des conflits armés et leurs répercussions sociologiques. Vous savez, toutefois, si la population voit les armes passer, on est content, on tape truc. Mais après, si ces armes font des massacres et dire à ces mêmes populations, venez voir ce que l'arme a eu à faire, d'autres vont pleurer. Ah, donc, c'est les premières victimes. ce sentiment de joie, c'est tout à fait normal parce que c'est la population, c'est les premières victimes, ça part d'eux, ça retourne d'eux. Donc on comprend cela. Donc beaucoup de travaux sont en cours d'ailleurs pour éradiquer la situation, mais il faut vraiment identifier, diagnostiquer les acteurs, chercher à traquer les acteurs, comme il a eu à dire, même les acteurs politiques de ces mouvements.
Alors, vous parlez de traquer les acteurs, chercher les acteurs, et comme vous le savez également, on dit plus CMA depuis quelque temps, la coordination des mouvements armés, le cadre stratégique permanent CSP, après la reprise de la ville de Kidal par l'armée malienne, a fait un communiqué où il parlait de repli stratégique et demande à ses militants de rester mobilisés. Quelle lecture faites-vous de cette annonce des groupes armés séparatistes à
l'Orgoulou ? C'est très simple. J'ai travaillé beaucoup sur là-dessus. Ces groupes armés séparatistes, ils ont des soutiens. Hein. Ils ont des bases juridiques. Mm-hmm. Ils travaillent bien. Leur diaspora aussi travaille bien. C'est pourquoi je dis il y a une manière de prendre la ville, il y a une manière aussi de conserver. L'Adra des Ouga, c'est le terrain n'est pas du tout facile. Si vous voyez le terrain, vous verrez bien. En réalité, ces retraits-là, ça doit donner vraiment des inquiétudes. Ça doit donner des inquiétudes. Et vous avez vie. Bon, l'armée s'est équipée, il y a des moyens et aussi ils sont équipés. Alors donc, en ce moment, il faut travailler logiquement, il faut travailler avec les autres. Modibo avait raison, la politique de bon voisinage. Aujourd'hui, on est en accord commun avec deux voisins, vraiment le Burkina, le Niger, mais les autres là, les cinq autres, c'est encore compliqué. Surtout la Mauritanie, leur situation vraiment, c'est pas du tout connu. Donc on a le cap de Kidal, mais de l'autre côté, au niveau de la Mauritanie, l'Algérie c'est encore flou. La position du Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout est c'est déjà connu, mais il faut travailler sur la politique de bon voisinage parce qu'il y a d'autres aspects après les conflits armés, après la guerre.
4 minutes pour clore cette émission. Bagabini, je commencerai par vous. Faut-il craindre alors des représailles après ce communiqué du CSP ?
Non, il n'y aura pas de représailles, au fait. J'ai eu à dire...
Parce que Ngolo disait tout à l'heure que ce repli stratégique pourrait être inquiétant également. Qui connaît l'Adra des Ifogas ?
Bon. Vous écoutez, vous savez, madame, il y a chez nous, ça existe dans tous les groupes ethniques du Mali, hein, ce qu'on appelle les institutions sociales, chez les Malinkés, chez le Comon. Et donc, je crois que le CSP est en train de jouer un peu au Comon, c'est-à-dire faire du grand bruit. S'ils étaient aussi puissants que ça, ils n'allaient pas perdre la ville. Et donc, on pourrait dire qu'ils pourraient revenir et aller se réorganiser, mais comment? Donc, tous les soutiens qu'ils avaient aujourd'hui, ils ont perdu ça, le soutien international, notamment, ils étaient parrainés par la France, parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Aujourd'hui, donc, ça n'existe pas. Deuxièmement, c'est vrai qu'avec l'Algérie, il y a des doutes, la Mauritanie aussi, mais si on prend le Burkina Faso, il n'y a plus de possibilité pour les rebelles de se replier de ce côté. Au niveau du Niger, effectivement, c'était une grande inquiétude pour le Mali. Et donc, avec le régime qui est sur place là-bas, aujourd'hui, ils n'ont aucune chance également de prospérer du côté donc, du Niger. Moi, je vois difficilement, effectivement, que cette résurgence, en tout cas, des groupes armés puisse prospérer, en tout cas, dans un bref délai. Maintenant, ce que je voudrais aussi... Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que j'ai l'impression que nous, on nous a appris en philo qu'il faut régler les problèmes en allant des plus simples aux plus compliqués. Mais l'armée malienne a fait l'inverse de cette méthode-là. Donc, on est parti prendre le taureau par la corne. Et donc, on a commencé par le problème le plus complexe Kidal. Évidemment, tout le monde le savait. C'est pas seulement Ibeka qui a eu à le dire. Même Youssoufou l'a dit. Pour vaincre le terrorisme dans le Sahel, il faudrait en tout cas régler l'affaire de Kidal.
Alors, il dit que l'armée a commencé par le problème le plus compliqué, c'est-à-dire arriver à prendre le contrôle de la ville de Kidal. Monsieur Koné, comme vous le savez, l'armée fait face à plusieurs fronts. Nous avons les groupes séparatistes d'un côté, nous avons également les groupes djihadistes regroupés au sein du Djinim. Comment l'armée malienne aujourd'hui peut faire face à tout cela?
Non, en fait, quand vous regardez un peu, il y a une jonction, sinon une fusion entre les groupes armés et les groupes terroristes. Sur la base d'accords locaux entre eux.
Donc c'est
dans
pareil.
Le cadre.
CMA, groupe djihadiste, c'est pareil aujourd'hui.
Je vais peser les mots, mais j'ai du mal souvent à faire le distinguo entre ces deux types que nous avons. Parce que vous savez, il y a une fusion, il y a eu une certaine complémentarité entre eux dans le cadre du contrôle du trafic de drogue, des stupéfiants, des produits illicites. Donc il y avait ces complicités entre les groupes armés signataires et les groupes terroristes. Donc seule solidarité qui a été créée, la prise de Kidal a brisé cette solidarité aujourd'hui. Et je pense que les groupes armés dans les jours à venir vont demander le retour sur la table des négociations avec le gouvernement et nous allons partir dans ces négociations en position de force. Mais l'erreur qu'il faut éviter, il faut éviter de le faire sous l'égide de la communauté internationale. Si on veut faire la négociation, il faut aller sur la base de la signature d'accords locaux entre des acteurs locaux parce que nous partons en position de force.
Alors, Monsieur Koné, la technique me fait signe que le temps imparti pour cette émission est terminé. Grand merci à nos invités. Bagabini Keita, enseignant-chercheur. Brima Mamadou Koné, également enseignant-chercheur. Golo Diarra, également aussi enseignant-chercheur. Nous aurons voulu avoir notre quatrième invité qui n'est pas venu pour cette émission. Il s'agit de Cheikh Mouar Doumbia, politologue. Je rappelle que cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série de productions du projet Prévention de la violence et médias de la Fondation Hirondelle avec le soutien du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Vous l'aurez compris au cours de cette émission, c'est la satisfaction partagée des scènes de liesse, des scènes de joie et... trois choses également à retenir, la puissance de l'armée, également le Kidal de retour dans le Giron malien également pourrait booster également l'économie locale. Il y a également une valeur politique également avec ce retour du Mali dans la ville de Kidal. Je suis Mariam Maïga, à la technique il y avait Mamadou Ouattara et Salim Diarra. Grand merci à vous pour votre fidélité, on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.